Littérature audio a le plaisir de vous présenter « Mais ne te promène donc pas toute nue », une comédie en un acte de Georges Feydeau. La pièce a été représentée pour la première fois le 25 novembre 1911 au Théâtre Fémina. Les personnages: Clarisse Ventroux, Ventroux, son mari, Hochepaix, Romain de Géval, journaliste, Victor, domestique. Le salon des Ventroux. Au fond, porte à deux vantaux ouvrant sur l'intérieur. À droite de la porte du salon, sur vestibule, porte menant à la chambre de Clarisse. Au deuxième plan, porte conduisant dans le cabinet de travail de Ventroux. À droite de la scène, la cheminée avec sa garniture et sa glace. Deuxième plan, grande fenêtre avec un poste. Entre rideau et fenêtre, grand store de guipure descendant jusqu'en bas. Cordon de tirage pour la manœuvre du distor côté gauche de la fenêtre. Face au public, un grand canapé à dossier élevé. Devant le canapé, à droite, sur un petit guéridon bas, une tasse à café, une petite cafetière, un sucrier, le tout sur un petit plateau. Bouton de sonnette électrique au coin de la cheminée, sur la table, un bloc-notes. Scène 1. Victor, puis Ventroux. Au lever du rideau, Victor, sur un escabeau, arrange le cordon de tirage du store de la fenêtre. À la cantonade, dans la chambre de Clarisse, on entend des bribes de conversation où domine la voix de Ventroux et de son fils, la voix de Clarisse étant plus lointaine.
« Attendez, mes enfants !»«
Comment ? Qu'est-ce que tu dis, Clarisse ?»«
Oh, quelle chaleur ! Quand partirons-nous enfin de Paris ?»«
Oh, bien, je ne sais pas. Aussitôt la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. »«
Oh, c'est ça, papa. Oh oui, pour Cabourg. »«
Oh, ben quoi ? Attends que la chambre soit en vacances !»
Attendez, mes enfants, que je prenne ma chemise de nuit.
Oh, Clarisse, Clarisse, voyons, tu perds la tête.
Pourquoi?
Mais je t'en prie, voyons, regarde-toi, il y a ton fils.
Ben oui, le temps de prendre ma chemise de nuit est...
Mais non, je t'en prie, voyons, tu es folle, on te voit, va-t'en.
Oh, et puis tu m'ennuies, si tu dois faire des scènes...
Ah non, tiens, je préfère m'en aller, plutôt que de voir des choses... Et puis toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère ?
Victor, qui s'est arrêté de son travail pour prêter l'oreille...
Il se bouffe.
Allez, fiche-moi le camp.
Oui, papa.
Non, ce manque de pudeur.
Et puis, qu'est-ce que vous faites là, vous ?
J'arrange les cordons du tirage.
Vous ne pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame ?
Je voulais finir, monsieur.
Oui, pour mieux écouter, aux portes.
Aux portes ? Je suis à la fenêtre.
C'est bon, allez-vous-en.
Victor, abandonnant son store et descendant de son escabeau.
Oui, monsieur.
Et emportez votre escabeau.
Oui, monsieur.
Il sort en emportant l'escabeau, Ventroux lui refermant avec humeur le bâton de la porte sur le dos.
Il faut toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là.
Et Maussade va s'asseoir à droite de la table. Scène 2. Ventroux, Clarisse. Clarisse, surgissant d'un coup de vent de sa chambre. Elle est en chemise de nuit, mais elle a son chapeau et ses bottines.
Ah ça ! Veux-tu me dire ce qui t'a pris ? Après qui tu en as ?
Ventroux, le coude droit sur la table, le menton sur la paume de la main, sans se retourner.
Apparemment, après qui le demande ?
Se retournant vers sa femme et apercevant sa tenue.
« Ah non, 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 tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit, avec ton chapeau sur la tête !»«
Oui, eh bien, d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure.
»« Ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau. C'est pas après lui que j'en ai. »«
Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait ?»«
Oh, rien, rien. Tu n'as jamais rien fait. »«
Je ne vois pas. »«
Tant pis, alors. » Car c'est encore plus grave, si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes.
Quand tu voudras m'expliquer ?
Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer la chemise devant son fils.
C'est pour ça que tu fais cette sortie ?
Évidemment, c'est pour ça.
Eh bien, vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi.
Alors, tu trouves ça naturel ?
Qu'importance ça a-t-il ? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit, mais une mère, ça ne compte pas.
Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas.
Un gamin de 12 ans.
Non, pardon, 13.
Non, 12.
13, je te dis. Il les a depuis 3 jours.
Oh, eh bien oui, 3 jours, ça ne compte pas.
Oui, oh, rien ne compte avec toi.
Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme.
En tout cas, ce n'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue ?
Où ça, toute nue ? J'avais ma chemise de jour.
C'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque.
Ah, voilà ! Voilà, dis-le donc ! Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'aie des chemises en calicot.
Quoi ? Quoi, des chemises en calicot ? Qui est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot ?
Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam.
Ah bon ? Les voilà en madapolam à présent.
Oh bien, merci. Qu'est-ce que diraient les gens ?
Les gens ? Quels gens ? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens ?
Moi ? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens. Ah, voilà où tu en arrives.
Mais non. Ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot, ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui.
Ah bien, tu as de l'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait.
Ventroux, abasourdi par tant de toupets, la regarde, se prend le crâne comme pour l'empêcher d'éclater, puis remonte en agitant ses mains au-dessus de sa tête.
« Ah bien non, tu sais, tu parles d'aplomb !»«
Absolument, et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. »
Oui, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire.
Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit.
Oui, oh, tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi ?
Tiens, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens encore ça. Pour qui y ai-je été, hein ? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je ne suis pas député, moi. C'est toi. T'as une façon de me remercier.
Il ne s'agit pas de te remercier.
Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentré, en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis.
Eh bien, oui, ça, je l'admets.
C'est encore heureux. Parbleu, tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude.
De latitude ?
36 degrés, parfaitement.
Quoi, de latitude ? Que ça veut dire, ça, de latitude ?
Tu ne sais pas ce que c'est que latitude ? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre.
Ah, je te demande pardon. J'ignorais.
Oh, c'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris. Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi.
Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on l'a remplie. Ah ben, ça serait du joli, si sous prétexte qu'individuellement la chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à fiche le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la chambre.
Eh ben, la belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors ?
Mais, ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis, enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport.
Je te demande pardon, ça en a. Parce que, à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris, par 36 degrés de latitude.
Tu y tiens ?
Parfaitement. Parce que, par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que, parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper.
Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente.
Est-ce que c'est ma faute si on voit au travers ?
Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre.
Ah non, ça c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant.
Mais je n'ai pas parlé de ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas.
Où veux-tu que j'aille me déshabiller ? À la cuisine ? À l'office ? Devant les domestiques ? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un pitois.
Cette mauvaise foi dans la discussion.
Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas ? Eh bien, si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller.
Voilà. Voilà sa logique.
C'est vrai, ça. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse, puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre ?
Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apportée.
Alors c'était la même chose. Tu m'aurais vue toute nue.
Mais moi, je suis ton mari.
Eh bien, lui, c'est mon fils.
Ventroux se prend les cheveux à se les arracher.
Oh non, c'est à décourager. Alors tu trouves que c'est pareil ?
Mais c'est plus près.
Oh !
En somme, toi, quoi ? Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je sais pas pourquoi.
Merci.
Je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore, devant qui on avait dit oui, c'était admis. Tu me voyais toute nue. Eh bien, ça, c'est indécent.
Ah, tu trouves ?
Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh ben, que la chair de ma chair voie ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. À part les préjugés.
Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout.
Pour les esprits mesquins, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça.
Voilà, voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça.
Non, mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette ? Et tu n'as jamais rien dit ?
Il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent.
Oui ? Oh, je te dis pas.
Eh ben, alors ?
Bon, quand ?
Quoi, quand ?
Quel jour ? À quelle heure ?
Quoi ? Quel jour ? À quelle heure ?
Cesse-t-on ? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui ? Pourquoi pas hier ? Pourquoi pas demain ? Alors, je te demande, quel jour ? Quelle heure ?
Quel jour ? Quelle heure ? Elle usa de ces questions. Est-ce que je sais, moi ? Comment veux-tu que je précise ?
Tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Ça, c'est merveilleux. Et alors, tu veux que moi, une femme, qui, par définition, dois être moins intelligente que toi, du moins c'est toi qui le dis, tu veux que moi, je sois à même de le faire quand toi, tu t'en déclares incapable ?
Mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis là !
Mais non, tu m'attaques, je me défends.
Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver ? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils ?
Mais ce n'est pas là-dessus que j'en suis. Ça t'est désagréable, eh bien, c'est bon. Tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention.
Oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non. Tu ne peux pas ne pas traîner en chemise. C'est plus fort que toi.
Oh, que c'est exagéré.
Tous les jours, je t'en fais l'observation.
Je t'assure, non. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie...
Que tu n'es plus en chemise? Oh, ça, évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée.
Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette?
Mais si, fais-la ta toilette, mais reste chez toi pour la faire. Et ferme la porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques.
Quoi? Ils n'entrent pas?
Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder.
Oh, si tu crois qu'un domestique, ça regarde?
Oui, oh, n'est-ce pas? C'est pas des hommes comme les autres. Non, mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette. Et tu t'enfermes pour mettre ta voilette.
Clarisse, avec les petits gestes étriqués et tatillons des femmes maniaques.
Ah oui, parce que là, je n'aime pas être dérangée quand je mets ma voilette. J'aime pas qu'on tourne autour de moi. J'en viens pas à bout.
C'est vraiment dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça. Tu fais encore mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette. Et tu ne fermes même pas tes rideaux.
Oh, quand?
Mais hier.
Ah ben oui, hier.
Parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors.
Oh, qui veux-tu qui regarde?
Qui?
Indiquant la fenêtre du geste.
Mais Clémenceau, ma chère amie, Clémenceau qui demeure en face, et qui est tout le temps à sa fenêtre.
Bah, il en a vu bien d'autres, Clémenceau.
C'est possible qu'il en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Ah ben, je serai propre.
En quoi?
En quoi? Mais tu n'y songes pas, tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Il a un esprit gavroche. Il est terrible. Qu'il me fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler.
T'as pas ça à craindre. Il est de ton parti.
Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu, je m'en ficherais. Et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi.
Toi?
Quoi? Tu le sais bien. Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine.
Oui, oh!
Ministre de la marine. Tout de même, hein, tu me vois?
Pas du tout.
Naturellement.
Ministre de la marine, tu ne sais même pas nager.
Que ça prouve, ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État?
Pauvres affaires.
Oui, c'est entendu. Oh, d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie. N'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable.
Irréparable.
Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise?
Mais non, bien entendu.
Et quand je dis ministre, on ne sait pas. C'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelque jour à devenir président de la République. Eh bien, que je le devienne. Mettons, on reçoit des rois, des reines, est-ce que tu les recevras en chemise?
Oh non, non!
Est-ce que tu te montreras à eux comme ça?
Mais non, voyons, je mettrai ma robe de chambre.
Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre.
Enfin, je mettrai ce que tu voudras.
Non, c'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction.
Moi?
Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi. Au contraire, c'est de l'ingénuité. N'empêche que, par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat.
Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'ai été incorrect.
Oh, pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier. Tiens. Quand Deschanel est venu me voir.
Eh ben?
Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté,
que tu ne trouves rien de mieux à lui dire. Ah, que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu te mets à lui peloter les cuisses.
Il joint le geste à la parole.
Oh, les cuisses, je ne m'occupais que de l'étoffe.
Oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue?
Eh ben, comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois.
Voilà, voilà. Mais tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon, surtout avec geste à l'appui.
Oh, tu vois du mal dans tout.
Ah oui, je vois du mal dans tout.
Non, mais je te conseille de critiquer, toi qui es si sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue. Eh bien, et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec Mademoiselle Dieu m'amour.
Quoi? Quoi, Mademoiselle Dieu m'amour?
Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable?
Quand je lui ai...
Se prenant le front à deux mains.
Oh non, non! Quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire...
Quoi? Tu ne lui as pas sucé la nuque?
Si je lui ai sucé la nuque, évidemment je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur.
Ah, tu trouves?
Tu ne penses pas que ce soir, par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites véroles qu'elle a sur le nez, que...
Est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? C'est si vicieux.
Oui, oh ben, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect. C'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances.
Du charbon? Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse?
Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé.
Ah oui, ah, c'est commode. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse.
Là, là, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça?
Non, non.
J'en ai gardé pendant 2 heures. Un goût de vieille chandelle et de cosmétique rance dans la bouche. Si tu trouves que c'est pas méritoire...
Oh si, si, tout ce que les autres font, c'est mal. Mais toi, c'est toujours admirable.
Je ne dis pas ça.
Tout de même, moi, si j'avais été sucé la nuque à Monsieur Deschanel, ah ben merci, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume?
Oh ben tiens, naturellement.
Voilà, voilà, qu'est-ce que je disais?
Elle se campe devant son mari.
Et tu appelles cela de la justice?
Ventroux lui prend la main, la regarde en dodelinant de la tête avec un rire indulgent.
Oh tiens, tu as un mode de discussion qui vous désarme.
Quoi? C'est pas vrai?
Ventroux la tire à lui.
Oui, là, oui, tu as raison. Tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à Mademoiselle Dieu m'amour.
Je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, cette malheureuse, ton devoir d'homme.
Là, eh bien, tu vois bien que tu es de mon avis.
Clarisse, tout contre lui.
Mais c'est qu'aussi tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes. Alors, c'est plus fort que moi, je me bute.
Moi, je te dis des choses blessantes?
Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel.
Je ne t'ai jamais dit ça.
Non, enfin, que j'ai pincé les cuisses à Monsieur Deschanel.
Enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations.
Clarisse, s'appuyant sur son genou.
Je ne te dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux.
Eh bien, soit, gentiment là. Je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais.
Eh bien oui, dis-moi ça comme ça.
À la bonne heure, voilà comme j'aime à t'entendre parler.
Clarisse, la tête sur son épaule.
Tu vois, comme je suis raisonnable quand tu veux.
À ce moment, Victor, arrivant du fond, entre carrément dans le salon. Scène 3. Les mêmes, Victor. Victor, en voyant Clarisse en chemise sur les genoux de Ventroux, se détournant vivement.
Oh !
Clarisse se retournant au cri, puis à la vue de Victor.
Oh !
Elle ne fait qu'un bond vers la fenêtre, bousculant au passage, à le renverser, Victor qui, le dos tourné, lui obstrue la route par sa présence. Ventroux se redressant sur la paume des mains.
Hein ? Quoi ? Qui est là ?
Victor sans se retourner.
Moi, monsieur.
Clarisse, dans la fenêtre, ramenant contre elle le bas du rideau sans défaire l'embrasse.
Ne regardez pas, ne regardez pas.
Oh.
Ah, ne regardez pas, ne regardez pas. Il est bien temps.
Mais je suis derrière le rideau.
Que ça fait, ça? Il t'a vu en chemise, maintenant, ce garçon.
Oh, je ne suis pas nouveau dans la maison.
Ça y est, voilà, c'est clair. Ce n'est pas la première fois qu'il te voit en chemise. C'est charmant.
Je t'assure, mon ami.
Oh, laisse-moi tranquille. Quand tu sais qu'une chose m'est désagréable...
Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. Je m'apaise, alors.
Qu'est-ce que vous dites? Ah, ça, dites donc, vous. Vous avez votre paise? Est-ce que vous supposez que madame...
Oh, monsieur!
Enfin, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez?
C'est pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin, un monsieur qui a laissé sa carte.
Ventroux lui arrachant la carte d'un geste sec.
Qui ça? Cette façon de fourrer son nez partout.
Ayant lu.
Ah non, c'est pas possible. Ah bien celle-là. Il est venu, lui?
Lui, parfaitement.
Quoi, quoi, lui? Qui, lui?
Celui-là, enfin, ce monsieur. Et il a dit qu'il repasserait à 4h30.
Ventroux hochant la tête avec un sourire intérieur qui éclaire sa physionomie.
Ah bien celle-là.
Se retournant et apercevant Victor tout près de lui, qui hoche également la tête avec un sourire approbateur.
« Voulez-vous me fiche le camp, vous ?»
Victor détalant.
« Oui, monsieur. »
Il sort. Scène 4. Clarisse Ventroux. Clarisse sortant de derrière son rideau en poussant un soupir de soulagement.
« Ah ! Ouf !»«
Oui, je t'engage à dire ouf. Ah, je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive. »«
Oui ? Ah ben tant mieux. » Je craignais que ça t'ait mécontenté.
Hein? Mais oui, ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté.
Mais alors, pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché?
Je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive, parce que peut-être ce te sera une leçon pour l'avenir.
Oh, j'avais pas compris ça. J'avais cru à un mot gentil de ta part.
C'est ça, un mot d'encouragement.
Oh ben, qu'est-ce que tu veux? C'est un petit malheur. Qui c'est le monsieur dont on t'a remis la carte?
Un petit malheur. Voilà. C'est tout l'effet que ça lui fait.
Mais quand je m'arracherai les cheveux, qui c'est le monsieur dont...
Qui? Quoi? Quel monsieur?
Dont on t'a remis la carte.
Se levant.
Et qu'est-ce que ça te fait?
Il gagne le milieu de la scène.
Oh, je te demande pardon.
Elle s'assied à la place laissée vacante par Ventroux.
Eh bien, tiens, puisque tu veux le savoir, c'est un monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise en compagnie de ton domestique. Parce qu'alors, mon comte, aurait été bon auprès de mes électeurs.
Pourquoi?
Parce que si je prêtais le flanc à ces commérages à celui-là. C'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection.
Non, ce n'est pas monsieur Hochepé.
Le maire de Moussillon-les-Indrées lui-même.
Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville?
Le socialiste unifié, parfaitement.
Ah ben, il a du culot. Cet homme qui a dit de toi « ping-pong ».
Comment dis-tu ça?
Ping-pong.
Ping-pong. Pique-pendre, pas ping-pong.
On ne dit pas ping-pong?
On ne dit pas ping-pong.
J'ai toujours entendu dire ping-pong.
Tu as toujours mal entendu.
Ah, bien c'est donc ça que je ne comprenais pas l'expression.
C'est donc ça, évidemment.
Bon, d'ailleurs, ça m'est égal. Ping-pong ou pique-pendre, j'espère que tu vas le mettre à la porte, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus.
Au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité.
Ah?
Hochepé chez moi, c'est ma revanche. Ensuite, ça a beau être le dernier des chameaux.
Oh oui, des chameaux.
il faut penser que c'est un gros industriel, que dans sa fabrique de tissus, il emploie de 500 à 600 ouvriers, autant de voies dont il dispose. Il est bon de se le ménager. Il faut être pratique dans la vie.
Tirant sa montre.
En attendant, il est près de 4h30. Il ne va pas tarder. Va, va t'habiller.
C'est ça, c'est ça. Ah !
Elle va presser le bouton électrique.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je sonne Victor.
Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu ?
Clarisse bat en l'air de la main d'un geste gentil, comme pour envoyer une tape à son mari.
Méchant ! C'est pour qu'il emporte ton plateau.
Contournant le canapé pour aller, tout en parlant, devant le petit guéridon sur lequel est le café.
Je lui ai déjà dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est laid de voir des tasses qui traînent. Et puis ça attire les mouches et les guêpes. Tiens, regarde-moi ça.
Ramenant dans sa main le bas du devant de sa chemise, de façon à en faire une sorte de chasse-mouche qu'elle agite au-dessus du guéridon.
Allez, allez, allez les mouches, allez les guêpes, allez mesdames. Je ne veux pas voir le désordre. J'aime la tenue dans ma maison. J'aime la tenue.
Elle aime la tenue.
Et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise...
Non, vraiment ?
Clarisse, du même geste gentil que précédemment, lui envoie de loin une tape de la main.
Ne sois pas taquin.
Tout en appuyant par-dessus le canapé sur le bouton électrique.
Quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça, hein ?
Oui, eh ben, c'est pas la peine de te fatiguer. La sonnette ne marche pas, il sera arrivé quelque chose dans la pile.
Ah ben, sans doute qu'elle est à sec, elle a soif. Il n'y a qu'à remettre de l'eau.
Peut-être, je n'en sais rien.
Je vais lui donner à boire.
C'est ça, va, va.
Oui.
Elle sort par le fond à droite. Ventroux, au moment de refermer la porte, la rouvre pour une dernière recommandation.
Et passe ta robe de chambre.
Mais oui, tu sais bien que quand tu me demandes gentiment, je me fais une joie.
Scène 5. Ventroux, puis Victor, puis Hochepaix. Ventroux, après avoir refermé la porte sur lui, reste un instant sur place, lève les yeux au ciel avec un geste de la main et un hochement de tête significatif. Puis, après s'être pris le front une seconde, va jusqu'à la fenêtre dont le store est toujours tiré. À ce moment, son regard s'arrête sur un point que le public n'aperçoit pas.
Ah !
Tout en saluant de la main.
Bonjour, bonjour ! Clémenceau !
Avec rage, il referme le store.
Il n'a donc rien à faire, cet homme-là. Ah, l'autre maintenant.
Il a traversé la scène. Il remonte côté gauche de la table, contre laquelle il se campe dans une attitude de dignité.
Monsieur Hochepaix.
Hochepaix entre et s'arrête sur le pas de la porte, un peu hésitant. Ventroux, sans même tourner la tête.
Entrez.
Pardon.
Laissez-nous.
Victor, après avoir jeté sur son maître un regard d'étonnement, quitte la pièce.
Seyez-vous, je vous prie.
Mon cher député.
Oh, cher.
Hochepaix, qui déjà esquissait le geste de s'asseoir, se redresse à l'observation de Ventroux.
Pourquoi donc pas ?
Après la campagne que vous avez menée contre moi.
Oh, la campagne !
Vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence.
Ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien.
Ah, très touché !
En voyant Hochepaix qui esquisse le mouvement de s'asseoir, il fait mine de s'asseoir aussi, mais se redresse aussitôt en voyant qu'Hochepaix s'est arrêté dans son mouvement.
Qu'est-ce que vous voulez ? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat.
Il fait mine de s'asseoir.
Je m'en suis aperçu.
Il fait mine de s'asseoir, mais se redresse en voyant qu'Hochepaix ne s'est pas assis.
Ben oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville.
Mais c'est votre droit.
Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi. Il est socialiste unifié, comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonts baptismaux.
Vous m'en direz tant.
Enfin, un tas de raisons.
Faisant mine de s'asseoir et se redressant aussitôt. Même jeu de la part de Ventroux.
Sans compter celle-ci, qu'il est plusieurs fois millionnaire et... que l'intérêt de mes administrés, vous devez comprendre, n'est-ce pas ?
Mais je vous en prie, ne vous défendez pas.
D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu.
Ce qui pour moi est l'important.
Évidemment. D'ailleurs, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrets qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bon accueil.
Et vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux...
Oh, pardon, je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté?
Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps.
Oh, c'est dommage.
Ah, vous trouvez que vous avez lavé les tasses? Ah, vous trouvez que vous avez lavé les tasses?
Ah, bien non. Tenez, je la calomniais. J'entends sa voix. Déjà prête. C'est un miracle.
Oh bien, je serai enchanté.
Scène 6. Les mêmes, Clarisse, Victor. Clarisse, toujours dans la même tenue que précédemment, surgissant du vestibule, suivie de Victor. Elle va droit au petit guéridon.
Oui, eh bien, venez voir comme vous avez enlevé les tasses.
Ventroux se retournant tout en parlant.
Ma chère amie, je...
Apercevant la tenue de sa femme.
Oh !
Clarisse sursautant au cri de Ventroux et, instinctivement, pirouettant sur elle-même pour se sauver. Elle donne ainsi contre le canapé sur lequel elle tombe à genoux.
« Ah ! Oh, tu m'as fait peur !»
Ventroux se précipite vers elle.
« Nom d'un petit bonhomme ! Veux-tu fiche le camp ? Veux-tu fiche le camp ?»
Clarisse, étonnée et en se remettant debout.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Tu n'es pas folle ? Tu viens ici en chemise quand j'ai du monde ?»«
Oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. »«
Mais, madame... » Je ne me plains pas.
Tu n'as pas honte, te montrer comme ça avec un domestique à tes trousses.
Mais non, c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses.
Mais je m'en fous des tasses. Voulez-vous me foutre le camp, vous ?
Il le pousse dehors.
Oui, monsieur.
Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois des tasses...
Oui, oui, c'est bon. Allez, allez, hop, hop, va-t'en.
« Ah, mais je t'en prie, ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas un chien. »«
Oh !»«
C'est vrai, ça. Monsieur Hochepé, sans doute. »«
Oui, madame, oui. »«
Quoi ?»«
Enchanté, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. »«
Ah non, 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 tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue. »«
Oh, en effet, c'est un peu incorrect. »«
Incorrect ?»«
Mais vraiment, il fait si chaud. »
Elle applique ses deux mains à plat sur le dos des deux mains de Hochepé que celui-ci a sur la table.
« Tenez, tâtez mes mains, si j'ai la fièvre !»«
c'est ça, tu vas recommencer comme avec des Chanel !»
Clarisse, toujours ses mains sur celles de Hochepé, son buste ainsi penché par-dessus la table.
« Mais quoi, c'est ses mains, c'est pas ses cuisses !»«
Comment ?»«
Pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes !»«
Vos
Mes mains, mes mains !»
Ah.
Ventroux saisissant sa femme par le bras.
Oui, eh bien, il s'en fiche, monsieur Hochepé. Il s'en fiche de tes mains.
Mais pas du tout.
Clarisse, en se frottant son bras meurtri par la brutalité de son mari.
Là, tu vois?
Oui, eh bien, en voilà assez. Je te prie de t'en aller.
C'est bien, c'est bien. Mais alors, c'était pas la peine de me demander d'être aimable.
Et qui est-ce qui te demande d'être aimable?
« Comment qui ? Mais toi, toi, c'est toi qui m'as bien recommandé. Et si tu vois monsieur Hochepé ?»«
Oui, bon, bon, ça va bien. »«
Ah, il n'y a pas de bon, bon, ça va bien. Je te prie, au contraire, d'affecter la plus grande amabilité. »«
Moi, moi ? Mais jamais de la vie, jamais de la vie. »«
Oh, c'est trop fort. Tu as même ajouté, ça a beau être le dernier des chameaux. »«
Oh !
Ah ! »
N'empêche que c'est un gros industriel qui occupe de 500 à 600 ouvriers. Il est bon de se le ménager.
Mais non, jamais de la vie, jamais de la vie. Je n'ai parlé de ça, monsieur Hochepé. Vous ne croyez pas, j'espère.
Ah, bon, quand vous auriez dit...
Mais non, mais non.
Monsieur Hochepé, J'espère que vous me faites l'honneur de me croire.
Ah, puis toi, tu m'embêtes. Allez, fous-moi le camp, fous-moi le camp.
Oh, mais dites donc, je te prie de me parler autrement.
Allez, allez, débarrasse le plancher.
Oui, mais quant à dire que tu n'as pas dit...
Allez, hop, hop, file.
Il n'y a pas de hop, hop, si tu ne sais plus ce que tu dis.
Mais tu vas filer à la fin.
Oh.
Oh.
À peine est-il descendu que la porte se rouvre.
Je ne vous ai pas dit au revoir, monsieur Hochepé. Très heureuse.
Madame.
Ventroux, pirouettant sur lui-même à la voix de sa femme et s'élançant sur elle comme s'il allait lui donner un coup de pied quelque part.
Mais nom de la veux-tu ?
Oh, mais je dis au revoir, voyons !
Ventroux lui ferme brutalement la porte dans le dos, après quoi il reste un instant comme abruti par les émotions, se prend le front comme pour l'empêcher d'éclater, puis descendant vers Hochepé qui est devant la table.
Je suis indigné, monsieur. Je suis indigné.
Oh, ben...
Monsieur Hochepé, ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Le dernier du chameau. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit...
Oh, laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de résidu de la décadence.
Oui, je sais bien. Je serais en droit, mais tout de même. C'est comme ma femme. Je vous prie de l'excuser. Vraiment, elle s'est présentée d'une façon...
Mais tout a son avantage.
Vous êtes trop galant. N'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud, n'est-ce pas? Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir.
Oui, oui.
D'ailleurs, moi-même, tâtez les miennes.
Lui manipulant la main entre les siennes.
Elles sont toutes en moiteur.
Hochepé, dégageant sa main pour la soustraire au contact de celle de Ventroux et l'essuyant contre l'étoffe de son vêtement.
Ah, oui, oui.
C'est très désagréable.
Très désagréable, en effet.
Alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en comment dirais-je, mon Dieu, il n'y a pas de mot, en chemise.
Ah, comme je la comprends.
N'est-ce pas?
Si je pouvais en faire autant.
Faites donc, je vous en prie.
Hein? Ah non, non. Vraiment, tout de même.
Oui, oui, évidemment. Et alors, n'est-ce pas, comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, elle est entrée.
Mais voyons.
Elle se croyait seule.
Mais c'est évident. Avec le domestique.
Avec le Ah oui, le domestique. Ah, mais le domestique, ça... Vous pensez bien que... Il y a une raison.
Je pense bien, voyons.
Ce serait un domestique ordinaire, évidemment.
Évidemment, ce serait un domestique ordinaire.
Mais là, ils ont été élevés ensemble.
Vous m'en direz tant.
C'est... Son frère de lait. Son frère de lait.
Son frère de lait.
Alors, n'est-ce pas, un frère de lait?
Ça ne compte pas, parbleu.
C'est ce que je dis, ça ne compte pas. Ça ne... Et alors, voyons, de quoi s'agit-il? Parce qu'enfin, tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vous administrer?
Eh bien, voilà, c'est à propos de l'express de Paris, n'est-ce pas? Qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrets, qui est un centre au moins aussi important.
Mais comment?
Alors voilà, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'express s'arrête à notre station.
Ah, diable, c'est difficile.
Ne dites pas ça, on a eu deux fois l'occasion de constater que c'était possible.
L'express s'est déjà arrêté?
Deux fois, une fois à la suite d'un déraillement, une autre après un sabotage.
Ah.
Eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service.
Évidemment, c'est un argument.
Seulement, n'est-ce pas, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus.
Oui, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Écoutez, je veux bien m'en occuper. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça. En attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note.
Tout en parlant, il a pris le bloc-notes, écrivant.
Nous disons Monsieur Hochepaix.
Hochepaix qui s'est levé et suit des yeux ce qu'il écrit.
C'est ça, c'est ça. Ah non, non, Paix, P-A-I-X.
Oh, je vous demande pardon. P-A-I-X, P-A-I-X. Croyez bien que c'est sans intention.
Oh, il n'y a pas de mal, je suis habitué, c'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée.
Comme la plus naturelle.
Oui, oui.
Là, là, passez-moi la bouillotte.
Voilà, voilà, madame.
Ah, mais tenez-moi, ne me lâchez pas de bêtises.
Je tiens, madame, je tiens.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ce potin? Vous croyez qu'on peut être tranquille un instant?
Allant brusquement tirer la porte qui s'ouvre à deux battants.
Enfin, qu'est-ce encore?
Apercevant, perché sur le haut d'un escabeau, sa femme, tandis que Victor, le corps arc-bouté, la tient à pleine main par la coupe.
Ah!
Clarisse se baisse au cri de son mari, de façon à passer la tête. Elle tient une bouillotte à la main.
Ah, c'est toi?
Oh, ça, qu'est-ce que vous faites là?
Eh bien, tu vois, j'arrange la pile.
Non, mais vous vous foutez de moi, tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir, madame?
Pour pas qu'elle tombe.
Quoi?
Oui, parce que quand on ne me tient pas, moi, j'ai le vertige.
Mais nom de Dieu, vous ne voyez pas que vous avez vos deux mains sur son... sur ses... C'est indécent.
Oh!
Voulez-vous lâcher ça, à la fin? Voulez-vous lâcher ça?
Il l'écarte. Clarisse manque de perdre l'équilibre.
Oh, mais fais donc attention, voyons, tu vas me faire tomber.
Eh bien, descends. Qu'est-ce que tu as, fiche là-haut? Est-ce que c'est ton affaire?
Clarisse, aussitôt en bas de l'escabeau, a passé sa bouillotte à Victor.
Mais c'est parce qu'il ne sait pas.
Eh bien, qu'il apprenne. Non, non, cette tenue.
Descendant vers Hochepaix, qui est devant la table, et en appelant à lui.
C'est convenable, hein? C'est convenable. Là, avec le domestique.
Oh ben, puisque c'est son frère de lait.
Oh!
Qui?
Moi?
Ventroux, bondissant, rouge de colère, sur Victor.
Oui, vous, qu'est-ce que ça veut dire, moi?
Le poussant dehors, ce qu'il envoie donner sur l'escabeau sur lequel il manque de tomber.
Allez-vous-en donc! Qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas?
Oui, monsieur.
Je finirai par le ficher à la porte, cet animal-là. Je vais vous dire, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais pas du même père.
Comment, pas du même père?
Hein? Non, non, je vais vous expliquer. Quand je dis pas du même père, j'entends que... Oh, et puis vous m'embêtez avec vos questions. Est-ce que ça vous regarde?
Mais...
Vous devez bien penser que si je tolère ça, c'est que j'ai de bonnes raisons.
Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien.
Oui, oh, mais je sais bien que c'est... Vous ne demandez rien, et puis une fois là-bas, avec le marquis, tata, 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 vous allez clabauder.
Mais non, quelle idée!
Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner.
Enfin, nom d'un tonnerre! Vas-tu aller t'habiller, toi?
Eh bien oui, quoi, donne-moi le temps.
Donne-moi le temps, donne-moi le temps, voilà une heure que...
Ben quoi, maintenant que monsieur Hochepaix m'a vu? Enfin, monsieur Hochepaix, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal?
Mais non, madame.
Ah, vous trouvez, vous?
C'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite.
Là, tu entends? C'est vrai, ça?
Virevoltant de façon à se faire voir sur toutes ses faces.
Qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on voit?
Oh, rien! Là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise, parce que vous êtes devant la fenêtre.
Ventroux bondissant sur sa femme et la tirant hors de la fenêtre.
Oh!
Ah, parce qu'il y a la fenêtre. Tu es brusque, toi. Mais sans ça...
Oh, sans ça, rien!
Là, je ne suis pas fâchée.
Elle s'assied sur le canapé.
Ah!
Quoi?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore?
Ah, je ne sais pas. J'ai senti comme un coup de poignard.
Comme un coup de poignard?
Qui est monté au cœur.
En se disant, elle se retourne et l'on aperçoit une guêpe écrasée sur le côté gauche de sa chemise à la hauteur de la croupe.
Ah là, au cœur, c'est ça que tu appelles ton cœur ?
Retirant la guêpe écrasée et la lui présentant par les ailes.
Tiens, le voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué.
Il la dépose par terre et l'écrase avec le pied.
Qui m'a piqué ? Ah mon Dieu, j'ai été piqué par une guêpe.
Pauvre madame.
C'est bien fait, ça t'apprendra à te promener toute nue.
Voilà, c'est ta faute. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Qu'en laissant traîner les tasses ?
Eh bien, tant mieux, ça te servira peut-être de leçon.
Tant mieux, il est content, il est content. Oh mon Dieu, une guêpe, pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse.
Mais non, mais non.
Oh Julien, Julien, je t'en prie.
Faisant volte-face de façon à lui présenter la croupe et tout en faisant mine de relever sa chemise.
Suce-moi, veux-tu, suce-moi.
Moi ?
La repoussant.
Non, mais tu ne m'as pas regardé.
Oh Julien, Julien, sois bon. Suce-moi, voyons, suce-moi.
Mais fiche-moi la paix, toi.
Mais suce-moi, enfin. Tu l'as bien fait à Mademoiselle Dieu-m'amour.
Mais d'abord, elle, c'était à la nuque. Ce n'était pas au... Et puis c'était une mouche, c'était pas une guêpe.
Mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Encore il y a 2 jours, dans le journal, tu as vu qu'un monsieur était mort d'une piqûre de guêpe.
Mais ça n'a aucun rapport. C'est en buvant. Il est mort étouffé.
Mais je vais peut-être étouffer. Ah, j'étouffe, j'étouffe.
Mais non, c'est une idée.
Si, si. Ah, oh, je t'en supplie, Julien.
Se retournant comme précédemment, de façon à lui présenter sa croupe.
Suce-moi, voyons, suce-moi.
Mais non, tu m'embêtes.
Oh, sans cœur, va, sans cœur. Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Apercevant Hochepé, redescendu à l'extrême gauche et toujours plongé dans l'examen des bibelots.
Ah, monsieur Hochepé.
Madame.
Clarisse se retournant pour lui présenter sa croupe.
S'il vous plaît, monsieur Hochepé, s'il vous plaît.
Moi ?
Ventroux bondissant sur elle et l'entraînant par le poignet.
Ah ça, tu n'es pas folle ? Tu vas demander à monsieur Hochepé maintenant ?
Eh bien quoi ? J'aime mieux ça que risquer la mort.
Certainement, madame. Je suis très honorée, mais vraiment...
Monsieur Hochepé, au nom de la charité chrétienne.
Ventroux la saisissant par le bras et la faisant pivoter sur elle-même.
Non, mais tu n'as pas fini ?
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je vous assure, madame, vraiment, sans cérémonie.
Ventroux éclatant et l'entraînant au milieu de la scène.
Ah, et puis fiche-nous la paix, avec tes s'il vous plaît, va faire ça toi-même.
Il la lâche.
Mais est-ce que je peux ?
Eh bien, va mettre une compresse et ne nous rase pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Oh, va-t'en, toi, va-t'en, je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi.
Eh bien, c'est ça. C'est entendu.
Voilà des hommes, tenez, voilà des hommes.
Sortant précipitamment par le fond gauche en appelant.
Victor, Victor.
Elle referme la porte sur elle. Scène 7. Ventroux, Hochepé. Ventroux, effondré sur son fauteuil.
Non, elle est à lier, ma parole. Elle est à lier.
Monsieur Ventroux.
Quoi ?
Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de n'avoir pas cru devoir.
Quoi ?
Mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés.
Mais comment ? Ah ben !
N'est-ce pas ? C'est ce que j'ai pensé.
Il n'aurait plus manqué que ça.
Oui, eh bien, je vais un peu le dire à monsieur. Je vais un peu le dire à monsieur.
Allons bon, qu'est-ce qu'elle a fabriqué encore ?
Scène 8. Les mêmes... Clarisse, Victor. Clarisse à Victor qui la suit.
Vous êtes tous des lâches.
Se tournant en même temps vers son mari et vers Hochepé.
Vous êtes tous des assassins et Victor ne vaut pas mieux que vous.
Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Lui non plus n'a pas voulu sucer.
Victor !
Je n'ai pas osé, monsieur.
Enfin, nom d'un chien ! Est-ce que tu vas aller comme ça t'offrir à sucer à tout le monde ?
Oh, ça m'élance, ça m'élance. Je dois avoir une fluxion.
Eh bien, si tu as une fluxion, va chez le dentiste.
Mais ce n'est pas dans la bouche.
Eh bien, va chez le médecin.
Ah oui, oui, il y a un docteur dans la maison, au-dessus.
Et c'est pas un docteur, c'est un officier de santé. Il n'a pas le droit au titre.
Ça m'est égal, il a fait de la médecine. Vite, Victor, montez et ramenez-le.
Bien, madame.
Clarisse, la main sur la partie endolorie.
Oh, je vais mettre une compresse.
Elle rentre dans sa chambre. Victor, sur le pas de la porte, après un instant d'hésitation, une fois qu'il a constaté la sortie de Clarisse.
Monsieur ne m'en veut pas, au moins, de ne pas avoir...
Hein ? Lui aussi !
Le poussant dehors.
Voulez-vous chercher l'officier de santé ?
Victor s'élance vers la porte du palier. Victor va donner dans De Géval, qui est dans l'embrasure, attendant qu'on lui ouvre. Scène 9. Les mêmes, Romain De Géval.
Eh ben, on n'est pas long à ouvrir.
Monsieur ?
Monsieur Ventroux, s'il vous plaît.
C'est ici. Vous désirez, monsieur ?
Ah, pardon. Je suis monsieur Romain De Géval, du Figaro.
Ah, parfaitement, monsieur.
À Victor, qui est au seuil du salon.
Eh bien, allez-vous-en.
Oui, monsieur.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
Voici. Je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview.
Ah ah !
Sur la politique en général. Comme vos derniers discours vous ont mis très en vue...
Ah, monsieur !
Je dis ce que tout le monde pense, et en particulier sur le projet de loi dont vous êtes un des promoteurs, les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état sage-femme.
Oui, oh, très intéressant, et qui me tient très à cœur.
Seulement, je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous m'avez déjà lu.
Mais certainement, certainement, monsieur de...
Géval, Romain De Géval.
De Géval, parfaitement. Eh bien, mais je suis à votre disposition. Seulement, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur. Monsieur Hochepaix.
Hochepaix.
P-A-I-X.
Maire de Moussillon-les-Indrés.
Oh, parfaitement, je connais.
Moi ?
J'y ai souvent pêché à la ligne.
Ah, à Moussillon, les... Oui, oui, non, je comprenais, oui, oui.
Alors, si vous voulez m'attendre un instant, nous passons, monsieur et moi, dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à vous.
Mais je vous en prie, vous permettez seulement que je m'installe à cette table. Je prendrai quelques notes pendant ce temps-là.
Vous êtes chez vous ?
Pardon.
Venez, mon cher maire de Moussillon-les-Indrés.
Tout à vous, mon cher député.
Ils sortent. Scène 10. De Géval, Clarisse, puis Ventroux et Hochepaix. De Géval s'est installé à la table, a tiré son calepin et, jetant un coup d'œil circulaire, de façon à s'imprégner du cadre, inscrit quelques notes.
Il n'est pas encore là ?
Sortant de sa chambre en descendant en scène, sans voir De Géval attablé.
Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, cet homme ?
Clarisse se retournant au son de sa voix.
« Ah, le voilà ! Oh, vite, vite, docteur !»«
Comment ?»
Clarisse le prend par la main et l'entraîne vers la fenêtre.
« Vite, vite, venez voir !»
De Géval se laissant conduire.
« Que je vienne voir ? Quoi donc, madame ?»«
Où j'ai été piquée ?»«
Où vous avez été piquée ?»
Clarisse faisant manœuvrer le store.
« Tenez, nous allons tirer le store pour que vous voyez plus clair. »
Ah, oui, madame, oui.
Vous verrez, docteur.
Mais pardon, madame, pardon, je ne suis pas docteur.
Oui, oui, je sais, vous n'avez pas le titre. Ça n'a aucune importance. Tenez, regardez.
Elle se retrousse.
Oh !
Clarisse, toujours retroussée, le corps courbé en avant, le bras droit appuyé sur le dossier du canapé.
Vous voyez ?
Ah, oui, madame, ça je vois, je vois.
« Eh bien ?»«
Tout à fait pittoresque, pimpant. Quel chapeau de chronique !»«
Comment ?»«
Vous permettez que je prenne quelques notes ?»«
Mais non, non, voyons. Tenez, touchez !»«
Que je ?»«
Touchez, quoi ? Rendez-vous compte !»«
Ah, oui, madame, oui ?»
De la main gauche renversée, il palpe Clarisse du côté droit.
« Très pittoresque !»«
Mais pas là, monsieur, c'est l'autre côté !»
De Géval transportant sa main de l'autre côté.
Oh, pardon.
J'ai été piqué par une guêpe.
Là ? Oh, quel aplomb !
L'aiguillon doit sûrement être resté.
Est-il possible ?
Voyez donc.
Ah, que je... Oui, madame, oui.
Il fixe son monocle dans l'œil et s'accroupit.
Vous l'apercevez ?
Attendez. Oui, je le vois.
Ah !
Oui, même, il dépasse tellement que je crois qu'avec les ongles...
Oh, essayez, docteur, essayez !
Oui, madame, oui.
À ce moment, sort du cabinet de travail, Hochepet, suivi de Ventroux.
Oh !
Il se précipite sur Hochepet et lui fait faire volte-face. Clarisse, sans se troubler ni changer de position.
Dérangez pas ! Dérangez pas !
De Géval, arrachant l'aiguillon et se relevant.
Tenez, madame, le voilà ! Le voilà, le matin.
Ventroux bondissant sur De Géval.
Ah ça ! Voulez-vous, vous ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu fais voir ton derrière à un rédacteur du Figaro.
Du Figaro ? Du Figaro ?
Oui, monsieur Romain De Géval du Figaro.
De Géval ? Vous êtes monsieur De Géval ? Oh monsieur, que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal, n'est-ce pas ?
Voilà, voilà. Ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle.
À ce moment, ses yeux se portent sur la fenêtre dont le store est grand tiré.
Ah ! Clémenceau !
Où ça, Clémenceau ?
Ventroux redescendant comme un homme ivre.
Clémenceau !
Clarisse regardant dans la direction indiquée.
Ah tiens, oui !
Elle adresse des sourires et des bonjours de la tête au personnage invisible en question.
Et il ricane !
Tombant sur le canapé.
Ah, je suis foutu! Ma carrière politique est dans l'eau!
Clarisse, pendant que le rideau tombe, adresse des petits saluts à Clémenceau.
Bonjour, monsieur Clémenceau! Mais très bien, monsieur Clémenceau! Et vous-même, monsieur Clémenceau? Ah, tant mieux, monsieur Clémenceau!
Rideau. Littérature audio vous a présenté une comédie en un acte de Georges Feydeau, mais ne te promène donc pas toute nue. D'honneur de voix ayant participé à ce projet collectif par ordre de leur entrée en scène. Clarisse, Christine Sétrin. Ventroux, Lemoco. Victor, Serge De Wulf. Hochepet, Bernard. Romain De Géval, Florent. Didascali, Cocotte. Avec l'aimable participation d'Antoine, dans le rôle d'Auguste Ventroux.